Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous le voyons chaque jour. On est heureux avec Elisabeth Assayac de vous accueillir chaque jour dans notre bulle d'optimisme et encore aujourd'hui à parler des arts de la table avec Gwenaëlle Lénoré, qui est la vice-présidente d'Arc.
Et avec vous, Francis Gel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur de Sabre Paris. Sabre Paris, c'est une marque de couverts. C'est bien simple, hein. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit.
Voilà, mes parents avaient une orfèvrerie. Donc très classique, et surtout des pièces de forme, c'est-à-dire des plateaux, des seaux à champagne, des trucs dont on se sert tous les jours.
C'est pas mal pour les bouquets de fleurs de temps en temps.
Bah ouais,
quand on a plus de vase, un beau seau à champagne, c'est pas mal.
Exactement. Et moi, j'avais envie de couverts pour un quotidien plus sympa, parce qu'à l'époque, il y avait soit du très classique très cher, soit du fun, très bon marché, ouais, et il n'y avait rien au milieu.
Il n'y avait rien au milieu. Et alors, vous avez tenté de travailler avec vos parents.
J'ai tenté, ouais, j'ai fait une petite tentative de 6 ans.
Une tentative de 6 ans qui ne s'est pas hyper bien passée.
Ouais, on peut dire ça.
Et vous avez travaillé pour Habitat.
J'ai commencé à faire des collections de couverts en freelance. C'est une des entreprises que j'ai rencontrées, c'est Habitat. J'ai fait un modèle de couvert pour Habitat qui m'a demandé de le fabriquer et j'ai sauté sur l'occasion parce que j'en rêvais. De monter mon entreprise qui s'appelle Sabre. Et la raison du nom de Sabre, c'est parce que le modèle s'appelait Sabre au catalogue d'Habitat.
Alors décrivez-nous ce modèle. Il y a quoi, c'est quoi Sabre?
Alors quand on a démarré avec Habitat, c'était un modèle en bois qui avait une forme de sabre. Avec les collections qu'on produisait pour Habitat, eh bien, on a développé un nouveau procédé pour imprimer des manches. Et c'est les débuts de Sabre. C'est des manches imprimées en couleur et un motif emblématique qui est le Vichy, qu'on a toujours et qui se vend toujours aussi bien.
Ce qui est marrant, c'est que tout n'a pas été simple, je crois, dans votre aventure. Dans votre profession, il y a un salon qui est capital, qu'on appelle le salon Maison et Objets, qui se tient à Paris, logiquement, deux fois par an, quand il n'y a pas trop de Covid. Je crois que votre premier salon, vous avez dit à nos équipes, en tout cas, ça a été un bide total, mais...
Le premier salon, c'était Maison et Objets en septembre 93, et on est passé pas très loin de la bulle. Hein. Vraiment pas très loin. Bah, on a fait rien.
Rien, sauf
une commande en Turquie pour un grand magasin. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a fait. J'étais sûr de mon coup. J'étais persuadé que, malgré tout, la collection était bonne et qu'il fallait qu'on continue. On est allé exposer à Francfort. Et à Francfort...
Qui est l'autre grand pendant des salons de l'art de la table.
Voilà, c'est un salon qui s'appelle Ambiente. Et à Francfort, il y avait la queue sur le stand et dans ce que vous parlez tout à l'heure de chance. On a fait, je ne sais pas comment, la couverture d'un magazine japonais où ils ont croisé un couvert Vichy bleu avec un couvert Vichy rouge. Ça faisait le drapeau français. Et on a fait la couverture du magazine japonais. Et il y avait une queue d'asiatiques sur notre stand, principalement des japonais bien sûr, qui venaient commander ce qu'ils avaient vu sur le magazine. Et un client américain dans les Hamptons. Et comme on avait un goût très prononcé pour les États-Unis, bah on est allé faire le salon de New York la saison suivante. Et pareil, aux États-Unis, on a fait un carton.
Au point
tout de suite.
C'est devenu votre premier marché, c'est ça?
Aujourd'hui, c'est de loin notre premier marché.
Donc une fois que les Asiatiques, les Américains ont dit c'est vraiment top, là, les Français se sont dit « Ah, il y a peut-être un truc à faire, les grands magasins ».
Alors, je l'ai fait parallèlement. Les grands magasins avaient démarré avant. J'étais allé voir les acheteurs de tous les grands magasins français, donc Printemps, Galerie, Bon Marché, BHV, et les quatre avaient acheté.
Ah, quand même.
Les quatre avaient acheté avant les salons, mais par contre, les détaillants n'ont pas apprécié la collection. Et c'est assez intéressant parce qu'on est 29 ans plus tard et on a toujours une activité française qui est très faible. Aujourd'hui, la France, y compris nos boutiques, y compris les magasins, et y compris la vente en ligne, c'est 15% de notre chiffre.
Mais comment vous l'expliquez? Vous n'arrivez pas à convaincre votre propre pays?
On arrive à convaincre les acteurs principaux, qui sont les grands magasins. Les grands magasins nous suivent, les détaillants. J'ai pas d'explication. On n'a jamais accroché dans le détail en France.
Vous n'avez pas accroché, mais là, il y a eu les confinements. Là, depuis 2 ans, on est en crise sanitaire. Je crois que ça n'a pas arrêté pour vous.
Alors, on a...
Vous avez même... Travailler jour et nuit.
En 2020, quand le 17 mars, toutes les entreprises s'arrêtent, on a juste mis un petit panneau sur le site, on reste ouvert. Et en fait, je suis resté avec ma femme, mon fils et une salariée qui ne voulait absolument pas confiner chez elle. Et on a bossé, on a vu les commandes arriver, ça rentrait.
Mais qui commandait pendant le confinement?
Mais tous les gens qui étaient chez eux et qui n'avaient rien d'autre à faire et qui n'étaient pas très inquiets. C'était ce dont Gwenaëlle parlait tout à l'heure.
Mais ça continue chez vous encore aujourd'hui?
Alors, en 2020, on a fait plus 15. Et en 2021, on a doublé la taille de l'entreprise. Et on voit là les
Et là, partout dans le monde, du coup, en tout cas aux États-Unis.
Parce que la France représentait 15%, un peu moins de 50% de notre chiffre, et là, elle est descendue à 15%. Donc la France, le détail France, a au contraire souffert pour nous. Et l'export a explosé.
Mais c'est quoi aujourd'hui le style Sabre?
Le style Sabre, alors par rapport au démarrage, Le style a quand même évolué. On était beaucoup plus couleur et le style a évolué avec l'âge des fondateurs, qui sont ma femme et moi. On avait 28 ans, on en a 57. On s'est un peu assagi, on est plus élégant, je pense. On est moins coloré, mais on est toujours différent. Ça, je crois que c'est ce qui est resté de Sabre. On a toujours des collections qui sont très distinctives. Il y a moins de couleurs qu'il y en avait au départ.
Vous continuez à dessiner des modèles?
On continue toujours à dessiner des modèles.
Ça
on se doit d'être créatif.
Pardon? Ça vous plaît toujours autant?
Plus.
C'est vrai, c'est marrant ça.
Moi, je suis complètement passionné par cette entreprise qui s'est développée et qui s'est développée très rapidement, en plus, ces dernières années.
Combien de salariés, là, aujourd'hui?
Aujourd'hui, on est 45.
45.
Parce que vous avez quelques boutiques en propre, hein,
alors, on a 3 boutiques en France, 2 à Paris et 1 à Saint-Germain-en-Laye.
Gwenaëlle Lénoret, vous êtes la vice-présidente d'Arc, hein, vous aussi l'un des grands noms bien évidemment de ce secteur de l'art de la table. Vous êtes le plus grand verrier de France, sûrement, je disais tout à l'heure, l'un des plus gros au monde, on n'en est pas très très loin. On voit une fois de plus ce dynamisme du secteur français. Vous produisez beaucoup en France, puisque votre usine principale est en France, 4500 salariés à Arc. On dit traditionnellement que c'est même l'une des plus grandes usines de France, en tout cas dans votre secteur. Est-ce que le Made in France, ça veut dire quelque chose encore dans le secteur des arts de la table? Parce que là on a vu tout à l'heure au Portugal pour vaisselle. Mais est-ce que le Made in France, ça veut dire quelque chose?
Et effectivement, le premier site industriel des Hauts-de-France, et on est le 7e site industriel français. Donc, en termes de taille, on est vraiment effectivement sur les tailles importantes. Et alors, pourquoi on propose aussi des produits très accessibles du quotidien? Alors, à la différence de mes collègues, c'est vrai que nous sommes vraiment sur des produits très accessibles, diffusés en grande diffusion, que ce soit sur Internet, mais aussi des réseaux de distribution qu'on peut trouver, les grandes surfaces spécialisées, que ce soit mobilier, décoration, ameublement, mais également
gamme,
les grandes surfaces alimentaires. Donc on est vraiment sur tous ces secteurs et sur la restauration. Et quand on parle de la restauration, avec Arcoroc, nous sommes vraiment sur une restauration accessible, ça peut être les brasseries, ça peut être les cantines dans les collectivités. Et puis sur Chef et Sommelier, on est effectivement un petit peu plus sur du moyen haut de gamme. Et le Made in France, ça a été en fait un enjeu majeur pour nous depuis plusieurs années. C'est vraiment une tendance qui s'est renforcée pendant le Covid. Alors au départ, le Made in France, il était surtout recherché par les étrangers. Et dans notre catégorie, c'est clair que le Made in France était extrêmement prisé par nos clients. La nouveauté de ces dernières années, c'est cette montée en puissance déjà du Made in France au niveau du marché
français,
des consommateurs français.
Vous le sentez ça, le fait que le Made in France en
Absolument.
France, c'est quelque chose qui prend.
C'est une réalité. En fait, ça devient un critère d'achat pour certaines enseignes, pour certains clients. Et donc nous, depuis 3 ans, nous avons obtenu la certification Origine France Garantie. Et on a vu que ça a eu un réel impact sur nos commandes, sur nos clients. Mais surtout, maintenant, d'un point de vue développement durable, consommer
Justement,
local, acheter local, c'est plus important que jamais.
Donc le Made in France, ça fait acheter, ça fait rêver. Et votre démarche environnementale aussi est prise en compte.
Absolument.
Donc ça signifie que dans le processus de fabrication, vous y veillez tout particulièrement.
Tout à fait.
Donc, c'est-à-dire
au démarrage du Covid en 2020, on a lancé à ce moment-là un programme d'une ambition très forte autour du développement durable, avec une ambition climat à 2030 et un certain nombre d'initiatives. Donc par exemple, comment est-ce qu'on arrive à décarboner aujourd'hui l'industrie du verre et maîtrise, elle consomme de l'énergie. C'est un sujet aujourd'hui, le coût
et
de l'énergie.
Et puis vous, les fours, ils tournent 24 heures sur 24, 7
les
jours sur 7, je crois.
Exactement.
À 1500 degrés. Hein.
Exactement. Donc, ça, évidemment, ça consomme. Donc, on a entamé tout un travail pour réduire nos émissions de CO2 et pour réduire notre consommation d'énergie. Donc, on a un travail qui a été d'ailleurs soutenu par France Relance, par l'ADEME, pour pouvoir aujourd'hui décarboner progressivement notre industrie, avec déjà un premier impact sur un projet de baisse de 8%. Des émissions de CO2 et de consommation d'énergie.
Vous faites partie de ces entreprises qui sont très très touchées par la hausse des coûts de l'électricité.
Absolument.
Alors le gouvernement a pris des mesures. Malgré tout, c'est ça le plus gros choc pour vous, parce que le prix du gaz et de l'électricité, quand on fait tourner ses fours toute la journée,
Exactement.
Ça aurait pu être un cataclysme encore.
En fait, sur la France, on a donc sur 10 fours, on a 7 fours qui tournent au gaz. Donc le premier impact, ça a été d'abord le gaz. On a eu quand même des pics à plus 350% de coûts. Enfin, et rien que là, sur l'année 2022, on a un impact de 85 millions de coûts additionnels.
Et ça,
additionnels,
c'est les clients qui vont payer un peu, vous arrivez à faire passer des hausses
gaz,
de prix.
Et l'électricité.
C'est nous qui allons payer ?
On a fait. En partie, nous avons dû effectivement passer une augmentation tarifaire parce que nous n'avions pas le choix. C'était juste une question de survie. Donc on a dû passer une hausse de 18%, ce que nous n'avions absolument jamais fait. Mais cette hausse ne compense pas tout. Donc il y a bien entendu une partie que l'on travaille de notre côté en gain de productivité et en réduction de notre consommation d'énergie.
Ce qui est étonnant, c'est qu'on l'entend depuis le début de l'émission, ça va bien, peut-être même comme jamais chez vous en ce moment. Pour autant, vous êtes une entreprise qui demande régulièrement des prêts, et notamment à l'État. Alors pourquoi donc?
Alors,
quand ça va si bien?
Alors effectivement, la première période, c'est la vague Covid. Donc la première vague Covid, où au démarrage, on a eu quand même une chute importante des ventes. Et nous sommes dans une industrie où effectivement, vous avez les fours qui tournent toute l'année, en continu. Donc quand vous avez une chute de chiffre d'affaires au démarrage très impactante, bien entendu, c'était pas absorbable par une industrie comme la nôtre.
On a
eu
mieux,
un premier plan de refinancement. Et puis en 2021, la crise en fait Covid a continué en début d'année. Fin 2020, ça a continué également. Et donc on a dû, là aussi, à un moment donné, repartir. Et pour cela, nous avions besoin d'un prêt. Alors nous avons eu des prêts d'État que nous avons toujours remboursés. Donc celui-ci sera remboursé comme les autres. Nous avons également notre actionnaire qui a refinancé à hauteur de 16 millions d'euros pour pouvoir justement repartir et pouvoir passer ce cap de cette crise Covid et de l'augmentation des coûts de l'énergie. Je précise que toute cette augmentation, nous n'avons pas pu la passer dans le prix. Et donc ça, ça fait un gap qu'il a bien fallu combler.
Francis Gelb, vous êtes le cofondateur de Sabre Paris. On l'a entendu, ça va hyper bien. C'est quoi la suite? C'est quoi vos projets maintenant?
Ah, le projet, je crois que c'est le challenge pour 2022, c'est de passer de gros artisans à petit industriel.
Elle va être où la différence?
L'équipement. L'investissement, l'équipement et le middle management, je crois. Alors aujourd'hui,
pour faire face à la demande, finalement.
Pour faire face à la demande. Aujourd'hui, on continue à se développer. Je pense qu'on fera une année au minimum à plus 20, parce que les perspectives sont vraiment excellentes. On a ouvert une boutique à Séoul il y a 4 jours. Et il y a plein de projets dans les tuyaux. Et vraiment, pour nous, le challenge 2022, ça va être de basculer d'un gros artisan à un petit industriel.
Vous avez entendu ça? C'est une marque de couvert. Basculer de gros artisans à petit industriel.
Bah vous reviendrez nous en
vous
parler.
Quand nous
ça,
en
ça
parler.
Avec
bravo
grand
à vous,
plaisir.
Francis Gelb. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Sabre Paris. Merci d'être venu nous raconter votre belle histoire dans
Merci
la France.
Merci de m'avoir invité.